إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخوتي في الله وأخوات ما زلنا مع قراءة كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله جل وعلا. فقد وصلنا إلى كتاب البيوع Donc on poursuit bi'idhnillah azza wa jal avec 10 minutes de retard, yani à cause d'un bug apparemment de l'application. Donc alhamdoulillah, on a réussi enfin à se connecter. On poursuit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de Manhaj al-Salikin de l'imam, le noble Cheikh Sa'di, hafidhahu Allah ta'ala wa rahima. Et nous sommes arrivés au chapitre concernant donc les ventes, voyez, les transactions. Et on avait commencé à évoquer les conditions, hein, les conditions de la vente. La première condition, ar-rida, le consentement mutuel entre les contractants. La deuxième condition, madha, an yakun al-mabi'u wa thamanu ma'lumayn lil-muta'aqidayn, que la chose qui est vendue ainsi que son prix soit connue auprès des contractants. La troisième condition, an yakuna maqduran ala taslimihima, que les contractants aient la capacité de les acquérir. Naam. Et la capacité de les acquérir. Voyez. La quatrième condition, la quatrième condition, que le contractant, bien sûr, qui vend la marchandise, soit propriétaire de la marchandise, ou qu'elle ait été mandatée par son propriétaire. La cinquième condition, que la personne soit pubère, douée des raisons, et raisonnable ou rationnelle. Et raisonnable ou rationnel. Voyez. La sixième condition, an la yaqa'a al-'aqdu 'ala muharramin shar'an. Et avant cela, on avait évoqué la sixième, qu'il n'y ait pas d'intérêt, Hein? Comme l'a mentionné notamment le compagnon Jabir radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme les intérêts et celui qui le fait consommer, ainsi que ses deux témoins et celui qui l'écrit. Ils sont tous identiques par rapport au péché. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل. طيب، فموكله أي معطيه لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب والأعظم. دي الإمام الخطابي رحمه الله تعالى que dans ce hadith le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis au même niveau celui qui consomme les intérêts et celui qui le fait consommer, parce que yani celui qui le consomme ne peut le consommer qu'avec l'aide de la personne qui va le faire consommer. D'ailleurs, et celui qui fait consommer quelque chose, il ne peut le faire qu'avec celui qui est en face de lui, qui va consommer et profiter de ses intérêts. Donc l'un est indissociable de l'autre. Ils sont tous les deux donc associés dans le péché, comme ils sont associés dans l'action. D'accord ? Donc celui qui le fait consommer, c'est celui qui le donne à celui qui va le prendre. Aïna'an. Taïb. Donc ça c'était donc la sixième condition. La septième condition, on a dit أَلَّا يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا. La septième condition, que le contrat ne soit pas établi sur une chose qui est interdite dans la législation islamique. D'accord ? Et on a dit que les choses qui sont interdites sont de deux sortes. La première sorte, les choses interdites pour ce qu'elles sont. Hein? Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la vente de l'alcool. Donc la vente de l'alcool, elle est interdite, parce que l'alcool en lui-même est haram, est interdit. La vente de el-meita. El-meita, donc l'animal qui n'a pas été égorgé de manière légiférée, sa viande elle est interdite. Donc sa vente elle est interdite. Et également l'asnam, les idoles adorées en dehors d'Allah Jalla wa Ala, sont interdites aussi à la vente par rapport à ce qu'elles sont.
C'est quoi la deuxième? Interdite pour ce qu'elle est et...
On va la citer, Inch'Allah. Taïb. Il y en avait dit aussi, la deuxième catégorie qui est interdite, c'est celle qui est interdite par rapport à ce qu'elle engendre comme préjudice pour les musulmans. Une vente qui va engendrer une rupture des liens et aboutir à des conflits, à des tensions entre les musulmans. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il était interdit de vendre, de faire une vente sur la vente de son frère musulman, de faire un achat sur l'achat de son frère musulman. Comme par exemple, un acheteur est en train de marchander avec un vendeur, d'accord ? Puis un autre vendeur vient et dit à l'acheteur, moi je te vends le même produit mais moins cher. Cela est interdit. Ou à l'inverse, un acheteur en train de négocier avec un vendeur, puis tu as un autre client qui vient s'interposer et qui va dire, moi je t'achète le produit plus cher. Ceci est interdit. D'accord ? Donc c'est la deuxième forme de vente qui est interdite. La première par rapport à l'objet lui-même qui est interdit par Allah religieusement, et la deuxième catégorie de vente qui est interdite, celle qui aboutit à un mal, à un préjudice, à des conflits, à des tensions, à des séparations entre musulmans, cela est interdit. D'accord ? Naam. Exception faite, bien sûr, on avait dit pour la vente aux enchères. Donc la vente aux enchères, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Le fait que le vendeur expose une marchandise au marché, d'accord ? Et il s'adresse donc aux gens qui sont au marché, il leur dit, qui est-ce qui veut m'acheter cette marchandise ? D'accord ? Donc chaque
client va proposer un prix au vendeur jusqu'à ce que le vendeur accepte de le vendre à tel ou tel prix.
Non.
Oui. ثم يقول ب وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. فهذا حديث النهي عن بيع المسلم على بيع أخي والنهي عن النجش أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. Donc là on revient juste sur la deuxième catégorie de vente qui est interdite. On a dit celle qui aboutit à des conflits, à des ruptures parmi les musulmans. Il dit l'auteur, rahimahullah, comme le prophète alayhi salat wa salam a interdit la vente sur la vente du musulman. D'accord ? Il y a ni la vente au détriment de la vente du musulman, ou l'achat au détriment de l'achat d'un musulman. Donc on a expliqué, on a donné les exemples hein, de cela. Ou un najash. Donc c'est quoi le najash ? C'est un terme technique qu'on va garder comme ça en arabe, mais c'est un terme, d'accord, qui indique une forme de vente qui est interdite. Taïb. Donc, déjà le hadith interdisant la vente du musulman au détriment de la vente de son frère, etc., c'est un hadith, d'accord, et l'interdiction également de Najsh se trouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Je précise ici, par rapport au fait de vendre quelque chose au détriment de la vente de quelqu'un, ou l'achat de quelque chose au détriment de l'achat de quelqu'un. Cela est valable également pour le kafir. D'accord ? Dans ce hadith, bien sûr, le prophète il précise, il dit « El-Muslim », le musulman, son frère musulman. Mais cela ne veut pas dire que tu peux le faire yani, vis-à-vis du kafir. Déjà, premièrement, parce que cela est une cause, hein, peut être une cause hein, qui va faire fuir le kafir de l'islam. Si toi tu portes, tu causes du tort à un kafir au niveau de la vente ou de l'achat, tu ne vas pas l'attirer à l'islam. Au contraire, tu vas le faire fuir. Et cela peut amener également à consommer des biens injustement. Taïeb, donc il faut s'éloigner même de faire ça vis-à-vis du kuffar, des mécréants. D'accord ? Quant à Najash, le terme Najash, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'augmenter le prix d'une marchandise de la part de celui qui n'a pas l'intention de l'acheter. D'accord ? Imagine, une personne entre dans un magasin, donc il y a la marchandise et les clients autour, et lui, il va faire exprès d'augmenter le prix, de vouloir acheter les marchandises, alors qu'à la base, il ne veut pas les acheter. À la base, il ne veut pas les acheter. Mais il va faire exprès de monter le prix des marchandises en disant, moi je t'achète la voiture à 20 000 euros. Alors qu'il sait qu'elle vaut moins que 20 000 euros. Mais il va dire, moi je te l'achète à 20 000 euros exprès pour inciter les clients à l'acheter à ce prix-là. Alors que lui, il n'a pas l'intention de l'acheter. Il s'en fiche de la voiture, il ne veut pas l'acheter. D'accord ? Soit il fait ça pour profiter au vendeur, admettons qu'il a peut-être un marché, il s'est mis d'accord avec le vendeur pour se faire passer pour un client, ou soit pour nuire au client tout simplement, ou les deux. Dans tous les cas, hein, il nuira au client s'il fait ça. D'ailleurs, dans cette forme de stratagème ou de ruse est interdite en islam et on l'appelle un najsh. D'ailleurs, نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. قال الشيخ سليمان حفظه الله ومما نهي عنه لأنه يسبب القطيعة بين المسلمين التفريق بين القريبين من الرقيق كأم وولدها أو أخوين ونحو ذلك، فإنه يحرم بيع أحدهما دون الآخر مما يؤدي إلى تفريقهما. وجاء النهي عنه في عدة أحاديث، منها حديث أبي أيوب مرفوعة: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. نعم، في الجلوت رحمه الله تعالى il va commencer à citer donc d'autres exemples de ventes qui sont interdites. D'accord ? Donc on a vu les exemples précédents, le fait de vendre quelque chose qu'Allah il a interdit, l'alcool, le porc, les idoles, etc., les instruments de musique, la drogue, et le fait de vendre des choses qui, d'une manière à ce que cela va aboutir à des conflits, des ruptures, ou causer du tort aux musulmans. D'accord ? Autre forme de vente interdite, la vente qui aboutit à la séparation entre les membres d'une même famille, parmi les esclaves. D'accord ? La vente d'esclaves qui aboutit à la séparation entre les membres d'une même famille, entre des gens qui ont un lien de parenté entre eux. Car cela donc divise et va séparer les musulmans. Le fait de vendre, par exemple, la mère à quelqu'un qui habite à un endroit et de vendre ses enfants à quelqu'un qui habite dans un autre pays, maintenant. Donc là, tu as séparé la mère de ses enfants. Là, il y a juste. C'est pas permis. Le fait de séparer deux frères, c'est pas permis. D'accord ? De séparer, yani, des gens qui ont un lien de parenté. Cela, il est interdit de les séparer. Hein, comme cela est parvenu dans plusieurs hadiths, notamment celui de Abi Ayyub, rahimahullah wa radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sépare la mère de ses enfants, Allah le séparera de ses bien-aimés le jour de la résurrection. Celui qui sépare la mère de ses enfants, Allah le séparera de ses bien-aimés le jour de la résurrection. Le jour où on aura besoin notamment de nos proches pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah Jalla wa Ala. Voyez, chacun voudra être proche de sa famille, des siens, en espérant que chacun pourra intercéder les uns pour les autres auprès d'Allah Jalla wa Ala. Donc celui qui sépare les membres d'une même famille ici-bas, Allah il les séparera de leurs proches yawm al-qiyamah. Donc le hadith est rapporté par al-Tirmidhi et il est hassan, il est bon. Et cela, comme disent certains parmi les ulama, inclut aussi les animaux. Inclut également les animaux. Et des ulama qui disent qu'il est interdit de séparer, par exemple, la chatte de ses enfants. Tu n'as pas le droit d'enlever les enfants de leur mère, même chez les chats. Comme font beaucoup de gens aujourd'hui. Sauf si la mère, bien sûr, les rejette ou ne s'occupe pas d'eux. Ça, c'est autre chose. Mais si la mère est proche d'eux et qu'elle s'occupe d'eux, il est interdit de les séparer. Celui qui les sépare, il sera inclus dans ce hadith, concerné dans ce hadith. Na'oudhu billah. Tayyib. Na'am. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق، أي أنه لا يجوز أن يبيع شيئا مباحا إذا علم أنه سيعمل به محرم أو يؤدي إلى محرم، وهذا له صور كثيرة، ومنها ما ذكره المؤلف رحمه الله كمن يشتري الجوز ونحوه ليلعب به القمار. Puis il dit, autre exemple de vente ou type de vente qui est interdite, vendre une chose à un client à propos duquel tu sais qu'il va commettre un péché avec ce qu'il a acheté de toi. Il dit, l'exemple que donne le cheikh, l'auteur ici, rahimahullah, la personne qui va acheter, par exemple, chez toi des noix ou des œufs pour aller jouer à des jeux d'argent ou pour les mettre, yani, comme on dit, dans la mise, dans les paris. Donc il va faire des paris et il va miser ce qu'il va acheter chez toi. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de lui vendre ces choses-là, car tu sais qu'il va se servir de ce qu'il va t'acheter pour aller parier. Vous comprenez ? Taïeb. Alors qu'à la base, c'est permis. Les noix, les œufs, c'est des choses que tu peux vendre. Mais si tu sais que la personne va les utiliser dans le haram, c'est interdit de lui vendre. Ou le fait de vendre des armes à des gens qui vont les utiliser pour tuer ou combattre injustement. En temps de fitna, en temps de trouble. Exemple, tu sais que dans un pays, les musulmans se tuent les uns les autres, se combattent les uns les autres injustement. D'accord ? Dans ce cas-là, si toi tu es un vendeur d'armes, tu n'as pas le droit de leur vendre des armes. Subhanallah. Interdit. Et également aux brigands des grands chemins, comme on dit. Si tu sais que la personne, c'est un brigand, c'est un braqueur, c'est un voleur, c'est un racketteur, est-ce que tu vas lui vendre des armes? Tu n'as pas le droit. Là, il y a tout. Et la vente, elle n'est pas licite. Elle n'est pas valide. Il dit le cheikh, fadallah ta'ala, il n'est donc pas permis de vendre quelque chose qui est à la base licite. Vendre des œufs, des noix, même des armes, si le gouvernement et les dirigeants te le permettent. D'accord ? À la base, c'est licite. Mais ça deviendra interdit si tu sais que la personne va l'utiliser dans ce qui est haram, dans ce qui est illicite. Ou une chose qui va l'amener à commettre du haram. Donc, il y a plein d'exemples. Hein. Parmi ceux qu'il a cités, le cheikh, rahimahullah ta'ala, le fait de vendre à quelqu'un des noix ou d'autres choses avec lesquelles il va miser pour jouer et faire des paris. D'accord ? Ou vendre des armes en temps de trouble entre les musulmans, en temps de combat, de lutte, de guerre civile, par exemple. Ou vendre des armes à des voleurs, des brigands, des braqueurs. Taïeb. Wa mithluhu man yashtari al-'inab liyuhawwilahu khamra fala yasihhu al-bay'u 'alayhi liqawlillahi ta'ala wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wa li hadith 'Imran ibn Husayn anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نهى عن بيع السلاح في الفتنة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبزار وقال ابن حجر في التلخيص ضعيف والصواب وقفه. Exemple également, vendre des raisins c'est permis ou pas? Vendre des raisins. Mais est-ce que tu peux vendre des raisins à quelqu'un qui va le transformer en alcool et en vin? Si tu sais que la personne va transformer ce raisin en vin, tu n'as pas le droit et la vente elle est pas valide. En vertu de la parole d'Allah Jalla wa Ala dans le sens rapproché, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Allah il a interdit l'entraide dans le péché et la transgression. Et également en vertu du hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a interdit la vente d'armes en temps de trouble. D'accord? Donc même si dans cette version-là le hadith il est faible, il faut savoir que dans sa version mawquf, c'est-à-dire qu'il s'arrête à Imran ibn Hussein, la parole elle est authentique. La parole elle est authentique et le sens surtout, il est authentique. Bihamdillah azza wa jalla. نعم ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. الجلب أي المجلوب وهي السلة التي تجلب من البوادي لبيعها في السوق وفي رواية لا تلقوا الركبان والركبان جمع الراكب وهم من يحمل السلع لبيعها في السوق فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأنهم لا يعرفون السعر وقد يغبنون في بيعها ولذا قال في الحديث فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار يعني إذا أتى البائع السوق فوجد أن المشتري قد غبنه فله الخيار بفسخ البيع واسترداد السلعة وسيأتي في باب الخيار أن هذه إحدى الصور التي يثبت بها خيار الغبن. طيب نعم. Autre type de vente interdite, l'interdiction d'aller à l'encontre de Al-Jalab. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, n'allez pas à l'encontre de Al-Jalab. Donc Al-Jalab, c'est Al-Majloub. C'est la marchandise qui est amenée, d'accord, qui est rapportée, qui est amenée, yani, vers le marché. Donc il dit le cheikh, c'est la marchandise qui est amenée et qui est rapportée des régions rurales, des contrées rurales, yani, qui sont éloignées de la ville, donc qui est amenée vers la ville afin d'être vendue, voyez, au marché. Dans une autre version, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'allez pas à l'encontre des arukban. Arukban, c'est le pluriel de Rakib, c'est-à-dire le cavalier. Donc il venait sur des chevaux, ou même des fois à pied, peu importe. Al-Muhim, ces gens-là qui apportaient donc de la marchandise afin de les vendre au marché, il était interdit d'aller les voir avant qu'ils atteignent le marché. Avant qu'ils n'arrivent au marché. Pourquoi? Car ceux qui amènent ces marchandises-là ne connaissent pas le prix du marché. Ils ne connaissent pas le prix de ces marchandises-là au marché. Donc il se peut qu'ils soient lésés et leurrés par le client qui viendrait le voir donc avant qu'il atteigne le marché et avant qu'il prenne connaissance des prix qui sont en vigueur au marché. C'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ. Donc lorsque, si il a vendu une marchandise avant qu'il arrive au marché, mais quand il arrive au marché et qu'il prend connaissance des prix véritables de ces marchandises, eh bien il aura le choix. فَهُوَ بِالْخِيَارِ. Il aura le choix de quoi? Là, lui, il a déjà vendu. C'est le vendeur, lui. Il a vendu une marchandise avant d'arriver au marché, sans savoir le prix du marché. Il a vendu à un prix. Mais quand il arrive au marché, il se rend compte que le prix auquel il a vendu sa marchandise, en vérité, il est plus haut. Donc, il a vendu à un prix bas, alors que le prix est plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a le choix. Le choix entre quoi et quoi? Eh bien, s'il s'aperçoit que la personne l'a trompé, en vérité, a fait exprès d'aller à sa rencontre avant qu'il n'atteigne le marché pour acheter la marchandise moins chère, s'il s'aperçoit qu'il s'est fait tromper, il aura une alternative, c'est-à-dire il pourra annuler la vente. Il pourra annuler la vente qu'il a faite et exiger qu'on lui rende sa marchandise. Comme lui a permis ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra donc le chapitre concernant Al-Khiyar. Al-Khiyar, c'est le choix. Hein? C'est le choix. On verra ce que c'est exactement. Mais ça, c'est l'une des formes de khiyar, de choix, qui pourra être possible concernant yani, une tromperie ou une trahison ou une fraude, etc. Donc le hadith est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu an. ثم قال وقال أي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وأخرجه مسلم أيضا مطولا وبلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابت السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني في parmi لا 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 نعم في الإفاسيتي ici une parole le Nabi sallallahu alayhi wa sallam concernant la fraude, concernant la trahison, la tromperie. Il dit, celui qui nous a trompés n'est pas des nôtres. Celui qui nous a trompés n'est pas des nôtres. Donc le hadith rapporté par Muslim, selon Abi Huraira, dans cette formulation. Mais on a une autre formulation, rapportée également par l'imam Muslim, et qui est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un tas de ta'am, ici, de blé ou d'orge. Donc il est passé devant un vendeur qui vendait du blé ou de l'orge. Donc il est passé, il y avait des tas de blé ou des tas d'orge. Qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a mis sa main, il a entré sa main dans le tas de blé. D'accord? Il a mis sa main à l'intérieur dans le tas et il s'est aperçu qu'il y avait du blé à l'intérieur qui était mouillé, trempé, humide. Mais qui était caché du coup. Parce que au-dessus, le blé il était normal. Mais quand il a mis sa main à l'intérieur, il a vu que le blé il était trempé. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est? Ya sahib al-ta'am. Qu'est-ce que c'est? Au vendeur de ce blé. Et il a dit, le vendeur, il a été touché par la pluie. D'accord? Il a été touché par la pluie. Ya Rasulallah. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ne l'as-tu pas mis au-dessus? Pourquoi ne l'as-tu pas mis au-dessus pour que les gens le voient? Pour que les gens voient que le blé, il est trempé. Qu'est-ce qu'il dit? Men rasha falaysa minni. Celui qui trompe, n'est pas des miens. D'accord? Donc, dans une version, on a celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Et dans une version, on a celui qui trompe n'est pas des miens. D'accord? Taïeb. Non. Wa mithlu al-riba al-sarih atahayyalu alayhi bil-ina bi-an yabi'a sil'atan bi-mi'atin ila ajal thumma yashtariha من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. فالعينة حيلة لأخذ الربا فهي محرمة، وقد جاء فيها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود والبيهقي، وقال روي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما. Puis une autre forme de vente qui est interdite, ce qu'on appelle, donc on a vu, hein, les ventes qui contiennent de l'intérêt usuraire, c'est interdit. Donc ça, l'intérêt usuraire, c'est un intérêt qui est clair, qui est évident, qui est apparent. Mais il y a aussi des formes de vente dans lesquelles l'intérêt, il n'est pas apparent, il est caché. Il est sournois. Hein? Il est caché. Comme le fait de ruser et d'user de stratagèmes pour justement consommer du riba, mais de manière implicite ou sournoise. La vente que l'on appelle al-ina. Al-ina. Donc juste retenez bien le terme en arabe, al-ina. Donc al-ina, cela consiste à quoi? Cela consiste à vendre une marchandise, par exemple, à 100 euros. Vendre une marchandise à 100 euros et de dire au client, tu me paieras plus tard. D'accord? Yani, je te vends la marchandise à 100 euros, mais tu me donnes l'argent à une date ultérieure. Taïeb. Puis le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir l'acheteur pour lui acheter cette marchandise, mais à un prix moins cher. Donc il lui a vendu cette chose-là à 100 euros, et il lui dit, tu me paieras plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Entre-temps, il va voir cette personne et il lui dit, je t'achète la marchandise que je t'ai vendue, mais je te l'achète, مثلا, à 50 euros. Je te l'achète à 50 euros. D'accord? Donc lui, il va racheter la marchandise à 50 euros. Il va lui donner 50 euros. Il va récupérer la marchandise. Mais la personne qui lui avait acheté la première fois, elle lui doit toujours les 100 euros. Elle lui doit toujours les 100 euros. D'accord? Qu'elle devra lui donner à la date ultérieure. Donc au final, il aura gagné 50 euros. Il aura gagné 50 euros. C'est comme s'il avait échangé, tout simplement, c'est comme s'il avait échangé un billet de 100 euros contre un billet de 50 euros. C'est la même chose. Au final, c'est une ruse au final qui fait qu'il aura gagné 50 euros. En vérité, ce n'est pas une vente. Si tu regardes bien, ce n'est pas une vente. Voyez, maintenant, donc on va donner un autre exemple pour que vous compreniez bien, inchallah. Par exemple, une personne va vendre une marchandise, allez, on va dire 10 000 euros, d'accord? Une marchandise qui va coûter 10 000 euros. Et elle dit, tu me paieras plus tard. Elle a vendu une voiture, maintenant, une voiture, 10 000 euros, elle lui dit, tu me payes au mois de Ramadan. Tu me paieras au mois de Ramadan. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les personnes qui lui a acheté la voiture et elle lui achète à un prix moins cher. Elle lui dit, si tu vends la voiture, moi je te l'achète. C'est elle qui lui a vendu. Elle lui dit, je te l'achète, mais à un prix moins cher. Mathanam, 6 000 euros. Alors qu'elle lui a vendu combien? 10 000 euros. Elle lui a dit, je te la rachète à 6 000 euros. Donc en fait, la vente ici, elle est fictive. Il n'y a pas de vente en vérité. C'est lui, c'est un malin. Il a manigancé tout ça juste pour se faire 4 000 euros, pour gagner 4 000 euros sur le dos de la personne. D'accord? Donc la ruse, elle est claire, elle est évidente. Mais si tu regardes bien la réalité de la vente, eh bien c'est quoi? Tout simplement, il a vendu, si vous voulez, il a vendu combien? 6 000 euros contre 10 000 euros en vérité, c'est pareil. Au final, c'est comme s'il était venu et il a dit à la personne, tiens, je te donne 6 000 euros et toi tu me donnes 10 000 euros. C'est permis ça? C'est pas permis. Donc au final, ça revient à une forme d'intérêt, sauf que celle-là, elle est sournoise, elle est cachée. D'accord? Na'am. C'est pour ça qu'il dit ici, donc l'ina sal'ina, retenez bien, l'ina, c'est une ruse qui permet de consommer du riba, tout simplement, de cette façon-là. Hein? Et cela est venu dans le hadith également de Ibn Omar, qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez faire usage de transactions dites ina, l'ina. Le Nabi, c'est quoi l'ina? Puis il a dit, lorsque vous allez prendre la queue des vaches et que vous allez être satisfait de vos plantations. Donc attention, ça ne veut pas dire, donc ceux qui prennent la queue des vaches, hein, c'est-à-dire les paysans, ceux qui labourent les terres avec les vaches, etc., etc., et ceux qui sont satisfaits de leurs terres. Ça ne veut pas dire que l'agriculture est interdite. Au contraire. Mais ça veut dire que ça concerne ici les gens qui sont plus préoccupés par la dunya que l'au-delà. D'accord? Donc en gros, ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il adresse cette menace et cet avertissement à ceux qui font passer leurs terres, leurs champs, leur commerce, la dunya, de manière générale, avant l'au-delà. D'accord? Retenez bien, donc ceux qui vont faire appel à l'ina, ceux qui font passer la dunya avant l'au-delà, lorsque vous allez délaisser la lutte dans le sentier d'Allah Jalla wa'ala, que ce soit de manière financière, physique, à travers la science ou autre, eh bien Allah Jalla wa'ala va vous faire dominer par l'humiliation. Allah Jalla wa'ala va vous faire dominer par l'humiliation. Donc, si vous cherchez à être élevé par al-'ina, par la dunya, par l'agriculture, par la richesse, en délaissant la lutte dans le sentier d'Allah Jalla wa'ala, eh bien vous allez recevoir le contraire, c'est-à-dire l'humiliation. Allah Jalla wa'ala, il va vous humilier. Puis il dit, subhanallah, la yanzi'uhu, c'est-à-dire cette humiliation-là ne vous sera pas enlevée tant que vous ne retournerez pas à votre religion. C'est-à-dire, vous continuerez à être humilié sur terre tant que vous ne retournerez pas à votre religion. Wal'iyadu billah. Subhanallah, hadith azim. Rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi. Même si les ulama, ils ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Wallahu a'lam. ثم يقول أو أتحيل على قلب الدين أو تحيل على قلب الدين كقول الدائن عند حلول أجل الدين وعجز المدين عن السداد أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتوفيني ديني وهذا يعارض قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة
Une autre forme de vente interdite, la ruse comme il dit ici, ala qalbi d-dayn. Concernant le, yani les dettes, concernant les dettes ou concernant le renversement d'une dette, c'est-à-dire un créancier, un da'in, donc un da'in, celui qui a prêté de l'argent, un da'in, d'accord, il a prêté de l'argent à quelqu'un et il lui a dit tu me rends cette somme. Par exemple, il a prêté 1000 euros. Et il dit à la personne, tu me rends cette somme-là au mois de Sha'ban. Arrivé au mois de Sha'ban, le débiteur ne peut pas le rembourser. Il n'a pas de quoi le rembourser, les 1000 euros. Il ne les a pas, les 1000 euros. Qu'est-ce qu'il lui dit, le créancier? Il lui dit, écoute, je te vends cet objet-là, je te le vends, d'accord, à 2000 euros, par exemple. Je te le vends à 2000 euros. Comme ça, tu vas prendre cet objet-là, tu vas le vendre, et avec cet argent-là, tu vas me rembourser. Est-ce que vous avez suivi ou pas? Allez, on va donner un autre exemple. Par exemple, une personne a prêté une somme, on va dire 10 000 euros. D'accord? 10 000 euros. Elle lui dit, tu me les rends au mois de Sha'ban. Au mois de Sha'ban, le créancier n'a pas la capacité de lui rendre ces 10 000 euros. Qu'est-ce qu'il lui dit, le créancier? Il lui dit, je te vends, mathalan, ma voiture. Je te vends ma voiture, d'accord? Puis, toi, tu prends la voiture et tu vas la vendre à ton tour pour te faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Et ensuite, tu vas me... Yann, il va lui vendre sa voiture à 20 000 euros, par contre. Il lui la vend plus cher, en plus. Il lui doit 10 000 euros, mais il va lui vendre sa voiture à 20 000 euros. La personne qui va acheter la voiture, elle va devoir la vendre pour le rembourser. Elle va la vendre, par exemple, à 10 000 euros. Elle a acheté à 10 000 euros, elle la vend à 10 000 euros, elle a les 10 000 euros, et elle va les donner les 10 000 euros au créancier. Elle va le rembourser. D'accord? Mais au final, elle lui devra encore 10 000 euros, au final. Elle lui devra encore 10 000 euros. Sauf si elle a la vend 20 000 euros, elle va lui rendre les 20 000 euros. Mais au final, il est gagnant, en tous les cas, il est gagnant. Il aura gagné 10 000 euros. Vous comprenez? Donc ça, c'est une ruse. C'est une ruse qui est interdite. Et qui consiste à se faire de à gagner de l'argent sur le dos du pauvre. Tu es en train de gagner de l'argent sur le dos du pauvre. De celui qui n'est pas dans la capacité de te rembourser. Hein? Ou également, comme il faisait à l'époque de la Jahiliya, voyez, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Un tel prêtait de l'argent à un tel et lui disait, tu me rends l'argent à tel moment, au mois de Shawwal. Et au mois de Shawwal, il disait à la personne, soit tu me rends l'argent, soit si tu me le rends pas au mois de Shawwal, eh bien tu me rendras plus tard, mais avec, hein, qu'on appelle ça, hein, un supplément. Un supplément. Ou des pénalités, comme ils font dans certains établissements, ils mettent des pénalités de retard. Si tu le rends pas au mois de Shawwal et que tu le rends au mois de Mathalan, de l'Hijjah, eh bien tu me rendras plus, parce que j'ai été en retard. Ça c'est pas permis et ça rentre également dans le même type de choses. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Mais le premier exemple, vous avez compris ou pas le premier exemple? La personne a prêté 10 000 euros. Le jour où il doit lui rendre, elle ne peut pas lui rendre. Elle n'a pas les sous. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, je te vends ma voiture. Comme ça, toi, de ton côté, tu vas la vendre et tu me rendras les sous. Mais lui, il la vend combien? Il la vend plus cher. Il la vend plus cher. Il la vend 20 000 euros, maintenant. D'accord? Donc au final, il va se faire 10 000 euros. Hein? Il va gagner 10 000 euros. Il va lui vendre la voiture, Naam. Il va lui vendre la voiture à 20 000 euros. À 20 000 euros. Il aura gagné 10 000 euros. D'accord? Il aura gagné 10 000 euros. Naam. Donc il aura transformé la dette de 10 000 euros en 20 000 euros. Alors que la dette à la base, elle était de 10 000 euros, elle s'est transformée en 20 000 euros, la dette. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il lui a vendu une voiture. Et s'il a vendu la voiture, c'est que il gagne de l'argent aussi. Il ne va pas lui vendre une voiture à un prix qu'il ne va pas gagner d'argent. Il va gagner de l'argent sur sa voiture, il va gagner de l'argent sur son prêt, il va gagner de l'argent sur tout. Allah al-musta'an. Hada la yajouz. C'est pas permis. طيب الحمد لله on va s'arrêter là pour aujourd'hui باذن الله عز وجل والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته